Bonsoir et merci d'être là. On arrive à la moitié de notre étude, dans le sens où on a terminé l'Ancien Testament. On a survolé en 12 sessions les premiers livres de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Et là, on va, avant d'aborder complètement le Nouveau Testament, j'aimerais rappeler quelques principes qui nous montrent qu'en fait, pourquoi on peut être sûr de notre foi. Et puis on parlera de ce qu'on appelle des fois le fil messianique. Et c'est vrai que toute la Bible est harmonisé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a dit que l'Ancien Testament était révélé dans le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament. Et il y a une harmonie fantastique entre les deux. Et il y a des églises qui ne parlent que du Nouveau Testament, et puis les juifs qui ne parlent que de l'Ancien Testament. Et en fait, quand on fait ça, on n'a rien compris, parce que la Bible est un tout qui commence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et on vit dans un monde où tout le monde est un peu déboussolé, et c'est quelque chose, quelque part, de très réconfortant de savoir qu'il y a un plan qui se déroule depuis l'infiniment passé jusqu'à l'infiniment futur, et que les choses ont une raison, que Dieu existe, qu'il contrôle les choses et que l'avenir est prometteur. On demande des fois qu'est-ce qu'on doit penser des autres religions. Certains pensent que, par exemple, le bouddhisme est plus ancien que le christianisme. Alors c'est vrai que Bouddha est arrivé sur la scène à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est arrivé 4 ans, probablement, sur la scène avant Jésus-Christ. Parce qu'il y a des erreurs, probablement, de calendrier. Mais, en fait, le christianisme a ses racines dans l'Ancien Testament, justement, et Abraham, on pense qu'il a existé entre 2000 et 1700 avant Jésus-Christ. L'hindouisme est arrivé vers 1600 avant Jésus-Christ. Moïse, on pense qu'il a été là vers 1200 avant Jésus-Christ. Le taoïsme, le confucianisme, c'est à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis, plus récemment, il y a eu l'islam, 600 ans après Jésus-Christ. Et puis les mormons, témoins de Jéhovah, 1800 ans après Jésus-Christ. Mais vous vous souvenez de ce passage dans Hébreux 1:3 qui dit que Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils s'est incarné, mais il a existé de tout temps. Et la foi chrétienne, ce n'est pas une foi récente qui serait arrivée au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui s'ancre dans l'histoire humaine. Une chose importante, donc, pas avoir de complexe vis-à-vis de ceux qui vous disent soit ils veulent des religions plus anciennes, soit ils veulent des religions plus modernes. Le Nouvel Âge, par exemple, c'est en fait un retour à des vieilles croyances animistes où la divinité se confond avec sa création. Dieu est partout, dans un lac, dans le ciel. Ou alors ils veulent des vieilles religions et ils pensent que, par exemple, le bouddhisme, c'est plus ancien que le christianisme. Une autre différences que vous devez connaître. Et je vous parle ce soir un peu pour avoir des idées, comment parler de votre foi avec les gens qui vous posent des questions. On a un verset très important dans Pierre, l'apôtre Pierre. Il n'est pas épais, Pierre. Toujours un peu de mal. Il y en a deux. C'est 1 Pierre 3,15. Une bonne façon de mémoriser pas mal de versets, c'est de se rappeler l'adresse 3,16. 3,16 ou 3,15. Jean 3,16. 2 Timothée 3,16. 1 Pierre 3,15. Comme ça, si vous pouvez vous raccrocher à des petits porte-manteaux, comme ça vous pouvez vous souvenir. Et c'est important de savoir, en tant que pasteur, il y a une chose qui me gêne beaucoup, c'est quand quelqu'un dit « Je ne sais plus où dans la Bible, mais il est dit que… » Et je n'ai pas de cesse tant que je n'ai pas retrouvé la référence du verset. Parce que tout ce qu'on dit, même si on dit que la Bible le dit, j'aime bien avoir la référence. Donc 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison d'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. Soyez toujours prêts, soyons toujours prêts à défendre, et c'est de là qu'on a le terme d'apologie, d'apologia, faire la défense théorique ou théologique. Intellectuel, c'est pas une mauvaise chose à connaître, de pouvoir expliquer sa foi, à défendre avec la logique contre quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Nous avons une grande espérance en nous qui fait qu'on vit différemment des gens qui nous entourent, on n'a plus le même genre de référence et on doit être capable de dire pourquoi. Si on dit parce que mes parents m'ont emmené à l'église et j'ai toujours fait ça, j'ai l'habitude, ça ne va pas porter de bons fruits. Et puis, il est dit de le faire avec douceur et crainte. Pourquoi, à votre avis, il y a ces deux précisions ? Moi, j'avais un ami, quand j'étais jeune croyant, on allait faire de l'évangélisation le samedi soir dans le quartier étudiant à Seattle. Et on était là, on donnait nos petits traités chrétiens, on essayait d'engager des conversations. Et j'avais un ami qui n'était pas très patient. Et quand les gens disaient « on n'y croit pas, tu nous embêtes avec tes histoires », il disait « tu verras, un jour tu fléchiras le genou. Toute langue confessera Jésus. » Et c'est un verset de la Bible, mais il ne le faisait pas avec douceur. Et jamais j'ai vu quelqu'un revenir et dire « Oh pardon, je n'avais pas compris. » En principe, je crois que ça éloigne encore plus les gens. Donc, à votre avis, pourquoi la douceur ? C'est pas une question piège, hein. Déjà, si on est sous le contrôle de l'esprit, on ne va pas être violent ou agressif ou méchant ou vindicatif. Pourquoi le faire avec crainte ? La douceur aussi, c'est que une douce réponse détourne la colère. Je ne sais plus où est le verset dans le proverbe qui dit ça. J'ai pas la référence, ça m'ennuie. Mais on dit aussi qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors il ne s'agit pas d'attraper les gens comme on attrape des mouches, mais on les attrape avec du miel, en étant doux, en étant patient, en étant souriant. Mais une question, moi, c'est pourquoi cette idée de crainte ? Crainte de qui ? Peur de qui ? De Dieu ou de ce que les gens nous donnent un coup de poing ?
de Dieu, parce que ce qu'on dit après, selon notre témoignage, c'est ça qui va nous juger par la suite, c'est Dieu nous juge par ce qu'on dit.
Et on a une grande responsabilité parce qu'on est peut-être la première personne qui parle de Dieu avec eux. Et suivant la façon dont on le fait, on peut bâtir un pont ou bâtir un mur qui va faire qu'ils ne voudront plus entendre parler de l'Évangile, de la Bible, des chrétiens, ou au contraire. Mais cette idée de crainte, parce que ce qu'on dit a une importance capitale. C'est pas juste une petite information, ça peut être une question de vie ou de mort, pas seulement physique, mais éternelle. Et on n'aime pas trop penser à notre responsabilité, mais elle est là, vraiment. Et donc, il faut être capable d'avoir des arguments, et donc ces arguments, on vient d'en voir un, l'idée que la Bible, c'est pas quelque chose qui a été inventé par Billy Graham ou Chuck Smith il y a 20 ans ou 30 ans, c'est quelque chose qui s'ancre, qui est ancré dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible fait référence même à la création du monde. Une grande différence aussi, c'est de faire comprendre aux gens que les religions, traditionnellement, c'est l'homme qui essaye d'aller vers Dieu. Qui essaye de, par des efforts, par des rituels, par des sacrifices, d'amadouer Dieu, de le rendre favorable à l'homme. Mais, en fait, l'homme, c'est avec toutes nos faiblesses, nos limitations. Si vous n'êtes pas convaincu de notre petite taille, il suffit de prendre un avion et dès qu'on décolle, on voit les bâtiments, on voit les personnes qui deviennent des petits points, on voit les villes qui deviennent des petits points. Et on est vraiment peu de choses. Et les religions, c'est cette petite fourmi qui essaye d'aller vers son créateur. Le fini qui essaye d'aller vers l'infini. Et ça ne peut pas marcher. La foi chrétienne, il est bon de rappeler que c'est l'inverse, justement. C'est l'infini, Dieu qui vient vers le fini. C'est Dieu qui vient s'incarner, qui vient parler aux hommes, qui vient se sacrifier pour eux. C'est totalement l'inverse. Alors certains disent, mais toutes les religions se valent. Vous l'avez entendu ça. Du moment qu'on croit en Dieu et qu'on fait du bien, c'est bon. Alors c'est vrai qu'on doit reconnaître que dans beaucoup d'autres religions, il y a des bonnes choses qui peuvent être faites. Il y a des aspirations nobles. Et en fait, ça ne devrait pas nous surprendre parce que la Bible nous explique que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc quand chaque homme y a des aspirations, il y a des tendances vers des bonnes choses, des choses qui honorent Dieu, ça ne devrait pas être une surprise, même parmi les païens. Vous avez tous rencontré des gens, vous dites, ils sont plus sympas que des chrétiens que je connais. Parce qu'ils ont en eux ce désir de plaire sans savoir vraiment à quelqu'un d'autre, avoir une référence. Le problème avec ces religions, c'est qu'elle ne donne aucun pouvoir à l'homme de vivre selon ses préceptes. Elle peut parler de bonnes choses, il faut faire la religion musulmane, par exemple, à ce qu'on appelle les cinq piliers. Il faut faire l'aumône aux pauvres, il faut faire le ramadan, le jeûne, il faut aller une fois à la Mecque, c'est le hajj, le voyage. Il faut dire que, professer que Dieu est et Dieu est seul et que Mohammed est son prophète. Et puis il y a un cinquième, c'est lequel? Je ne sais plus, peut-être quelqu'un. Ça c'est la zakat, c'est l'aumône. Mais il y a cinq choses comme ça. Et la seule force qui fait que les gens le font, c'est pas parce que Dieu est en eux pour leur donner la force, c'est parce qu'ils voient que s'ils ne le font pas, ils vont être exclus. J'ai connu beaucoup de jeunes musulmans ici à la fac de Nice On leur demande s'ils font le ramadan ici, ils disent non. Et est-ce que vous le faisiez quand vous étiez en Tunisie ou en Algérie? Oui, parce que là-bas, il y avait la famille. Maintenant, de plus en plus, parce que ça devient un signe identitaire, ils sont obligés, ils se sentent forcés, pas parce que Dieu leur inspire cela de l'intérieur, mais de faire ce jeûne pour soi-disant plaire à Dieu. La foi chrétienne, lorsqu'elle est, elle est réelle, qu'elle est bien comprise, c'est Dieu qui vient habiter l'homme. C'est Dieu qui vient vivre à sa place. Vous vous souvenez de ce verset dans Galates 2:20, j'y reviens souvent parce que c'est fondamental. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je suis toujours là dans ma chair, dans mon corps physique. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La Bible est claire aussi que il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. La Bible est très intolérante. Et on vit dans une société où la tolérance est devenue une valeur fondamentale. Ce n'est pas politiquement correct que d'être intolérant. Donc au nom de la tolérance, on laisse filer toute chose. On dit ça regarde chacun, c'est des choses privées, c'est pas... Non, c'est une question de vie ou de mort, une question de vérité. La tolérance n'est pas une vertu. Et Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit « Vous pouvez passer par Mohamed, vous pouvez passer par Bouddha, vous pouvez passer par Confucius. » Il a dit « Seulement par moi. » Alors c'est vrai que quelque part, on a du mal à dire aux gens « Non, il n'y a que la foi chrétienne qui est la bonne foi. » Parce que dans tous les autres domaines, on se dit « Mais on ne peut pas imposer ces... » Mais ce n'est pas une question... Ce n'est pas vous qui imposez votre vision des choses. C'est la Bible qui est intolérante. Dieu nous explique, il n'y a pas 50 façons. Acte 4:12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est la Bible qui est intransigeante, intolérante, et soit on pense qu'elle est vraie, et auquel cas on doit embrasser cette intolérance, on doit l'accueillir et s'en réjouir, soit on rejette tout. Mais j'ai connu des prêtres catholiques qui pensent que c'est un peu trop dur de dire que les musulmans ne vont pas être au paradis. On avait un bon ami, on pouvait aller faire de l'évangélisation dans l'école dont il était responsable spirituel, mais au fond de lui-même, il n'était pas sûr qu'il n'y avait que Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, bon, ben, on est juste comme... Il y a plusieurs maisons qui font de la grande distribution, il y a Carrefour, il y a Auchan, il y a peu importe. Non, il n'y en a pas d'autres. Et ça aussi, il faut être clair, l'expliquer aux gens. J'ai dit, j'aimerais bien pouvoir dire que vous pouvez continuer à vivre comme vous le faites. J'aurais bien aimé pouvoir continuer à vivre comme je le faisais. Mais un jour, on m'a et c'est vrai que tu secoues la tête. C'est vrai que quand on a goûté à la vérité, on se dit, mais qu'est-ce qu'on faisait dans le mensonge avant? Et leur dire... C'est ce que la Bible dit, et je crois à la Bible. Donc ma position, c'est pas de te dire que tu as tort, c'est de te dire ce qu'il faut faire pour que tu participes à ce salut. Après, tu es libre, je vais te dire ce qu'il faut faire, je vais te dire ce que je crois vraiment au plus profond de moi. Parce que des millions de personnes, c'est pas la raison, parce qu'il y a des millions de personnes qui ont cru aux communistes, qui croient à la Soka Gakkai, une secte japonaise. Et il y a plein de choses auxquelles on peut croire qui ne sont pas vraies ou qui ne donnent rien dans la vie. Mais ça, c'est l'intolérance de la Bible. Il ne faut pas en avoir peur. Une autre grande différence, c'est les tombeaux. Est-ce que vous savez où est enterré le prophète Mahomet? On n'en parle pas beaucoup de ça. Mais il est enterré à Médine, Il y a un tombeau où seules quelques personnes peuvent rentrer parce qu'ils ne veulent pas en faire une grande publicité. Mohamed, il est mort. Il y a ses ossements qui sont là. Gautama, qui c'est Gautama? Exactement, c'est le Bouddha original, ça veut dire l'éveillé. Ça fait seulement 15 ans qu'on a retrouvé le tombeau du Bouddha quelque part en Inde, mais on a retrouvé des ossements. Par contre, lorsqu'on va à Jérusalem, on nous montre une tombe vide. On n'a pas envie de suivre un homme mort. Le général de Gaulle, par exemple, a été un grand homme au sens historique. Il a eu une grande influence en son temps. C'était sans doute quelqu'un de remarquable par bien des aspects, peut-être pas aussi remarquable par d'autres. Mais son corps se putréfie dans une tombe à Colombey-les-Deux-Églises. Il est mort en 70, ça fait déjà 39 ans, ça ne doit pas être beau à voir. Et j'ai pas envie de suivre le général de Gaulle. Mais Jésus, lui, il est ressuscité, il est vivant. Et suivez un mort si vous voulez, moi je préfère suivre quelqu'un de vivant. Ça, c'est important. Et puis, le même Pierre, c'est pas parce que je m'appelle comme lui, mais il a un passage très important dans 2 Pierre, c'est juste un peu plus loin. 2 Pierre 1, 16 à 21. De Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Il parle de Jésus et il dit, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre dit qu'en fait, il a été un témoin oculaire. Il a vu. Ce n'est pas des histoires qu'il a inventées. J'aime bien l'expression des fables habilement conçues. On vit dans un monde où il y a des fables habilement conçues par les hommes politiques, par les marchands de n'importe quoi. C'est le domaine de la publicité, du marketing. Ce qui compte, c'est l'apparence. Pierre dit que c'est pas de la pub qu'il fait pour un nouveau mouvement qu'il aurait créé, dont il serait le pape. Il dit, c'est parce qu'il a vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » C'était quand ça, qu'il a entendu ça?
Au baptême et à la transfiguration.
Exactement, le baptême et à la transfiguration. Verset 18, nous avons en effet entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il nous dit, nous avons vu Jésus lui-même, nous avons vu Dieu le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Et ça nous a donné une confiance inébranlable dans les prophéties de l'Ancien Testament. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Les prophéties ça nous aide à faire que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Les prophéties, ce n'est pas quelque chose d'intéressant, d'anecdotique, c'est au cœur de la révélation de Dieu. Et on a dit, on en a déjà parlé, que c'est la signature de Dieu, parce que Dieu est en dehors du temps. Et la seule façon dont il pouvait montrer à ses lecteurs ou à ceux avec qui il communique qu'il est en dehors du temps, c'est de leur montrer qu'il sait des choses qui vont se passer dans le futur. Et des prophéties du nombre, de l'importance, de la précision de ce que l'on trouve dans la Bible, il n'y en a dans aucune autre religion. Il y a quelques vagues prophéties dans l'islam, il y a quelques vagues prophéties dans d'autres religions, mais rien de comparable, absolument pas comparable à ces prophéties. Alors certains disent oui, mais c'est facile de faire des prophéties après coup. Et une chose remarquable, et c'est là qu'on voit aussi comment Dieu, par l'histoire, peut authentifier son message, c'est qu'on a une traduction de la Bible qui a été faite à peu près en 270 avant Jésus-Christ. Et on sait par l'histoire, par les commentateurs, que cette traduction était bien connue, on savait ce qu'il y avait dedans. C'est pas quelque chose de qui permet de dire oui, peut-être pas, peut-être non, c'est certain, cette traduction existait 250 ans avant que Jésus-Christ ne naisse. C'est la fameuse version des 70 qu'on représente des fois avec LXX pour les chiffres latins du 50 et du 10, deux fois 20 plus 50, 70. Et elle a été commanditée par un responsable qui s'appelait Ptolémée de Philadelphie. Il a régné de 285 à 247 en Grèce, c'est pendant la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui habitaient en Égypte, où se trouvait ce roi, qui perdaient la connaissance de l'hébreu, qu'ils ont décidé de traduire la Bible en hébreu et de la traduire en grec. Et cette version est très, très importante parce que c'est la version que citaient le plus souvent les apôtres. Même Jésus, on voit par rapport à des fois à l'Ancien Testament qu'on a eu par une autre voie, par la voie de ceux qui recopiaient le texte, les Masorètes, on voit des différences, et en fait c'est parce que la version des 70 était celle la plus connue en Palestine à l'époque de Jésus. Et on est convaincu que on connaît le texte 250 ans, on ne peut pas dire parce que pour d'autres passages de la Bible, on a des copies qui viennent après la période de Christ. Mais ça, on est sûr. Et ça permet d'affirmer que les prophéties ont été décrites avant les événements. Ce sont de vraies prophéties. Ce n'est pas des histoires qu'on a racontées après coup, mais on peut aller voir les vieux textes. Il reste trois textes les plus célèbres, on appelle le Vaticanus, parce qu'il a été trouvé à Rome, il date du 4e siècle. Ça, c'est des copies de ces manuscrits. Le Sinaiticus et puis l'Alexandrinus, les deux sont à Londres. Il y a aussi d'autres bouts de traduction, mais on sait qu'à l'époque, les gens savaient qu'il y avait des prophéties qui avaient été annoncées. La Bible parle énormément du futur. Quelqu'un s'est amusé à faire le compte. Il y a 8362 versets qui parlent du futur dans la Bible. Ces versets s'occupent de 1817 prédictions précises sur 737 sujets. C'est un mode d'expression divin. Ça veut dire que la plupart de la Bible, c'est de la prophétie. Et beaucoup de prophéties sont justement au sujet du Messie, de Jésus. Des prophéties sur sa première venue, son incarnation à Bethléem, sa vie, sa mort sur la croix, et des prophéties sur son retour. Il y a près de 300 prophéties qui se sont accomplies rien que pendant la vie de Jésus. Alors vous les connaissez sans doute. Par exemple, son lieu de naissance allait être à Bethléem dans la tribu de Juda. Bethléem et Ephrata, on a vu ça dans le prophète Michée. Matthieu, chapitre 2, verset 1, nous dit que Jésus est né à Bethléem. Il était précédé d'un messager, ça c'est dans Ésaïe 43, avant de parler aux foules. Avant de venir, il a été précédé d'un messager. Matthieu 3,12 nous annonce qu'il y a eu Jean-Baptiste qui est venu parler de lui. Il est entré à Jérusalem sur un petit âne. Zacharie 9,9, on a parlé de Zacharie la semaine dernière. Luc 19,35 nous montre cette prophétie réalisée. Il allait être trahi par un ami, le psaume 41,10. Matthieu 26,47 nous dit que Judas, qui était un de ses 12 disciples, l'a trahi. Le psaume 22, qu'on appelle souvent un psaume messianique parce qu'il parle au futur justement du Messie, de Jésus, nous dit au verset 17 qu'il va avoir les mains et les pieds percés. Luc 23,33 nous explique comment les Romains lui ont percé les pieds et les mains. Il allait être trahi pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11,12, réalisation Matthieu 26,15. On allait lui cracher dessus et le battre. Ésaïe 56, réalisation Matthieu 26,76. L'argent de la trahison allait être jeté dans le temple puis utilisé pour l'achat du champ du potier. C'est pas de la prophétie vague, ça. Il y a le montant, il y a exactement à quoi ça va servir. C'est presque comme si on peut lire sur Excel les détails, la somme, le montant, l'usage. Zacharie 11,13, réalisation Matthieu 27. Qu'il allait garder le silence devant ses accusateurs. Ésaïe 53,7, Matthieu 27,12 pour la réalisation. Crucifié en compagnie de voleurs. Ésaïe 53,12, ça s'est accompli, Matthieu 27,38. On allait tirer au sort ses vêtements. C'est peu probable que quand on va vous mettre à mort, les gens vont jouer pour se partager vos vêtements. Ben, le psaume 22,19 le dit, Jean 19,23, on voit la réalisation. Qu'il allait avoir le côté percé, Zacharie 12,10, Jean 19,34, réalisé. Aucun os ne serait brisé, c'est le psaume 34,21. Jean 19,33 montre la réalisation. Il allait être inhumé dans la tombe d'un riche. Ésaïe 53,9, Matthieu 27,57. Les ténèbres allaient recouvrir la terre. Amos 8,9, Matthieu 27,45. Là, on s'arrête à 17 prophéties détaillées, annoncées plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, ces prophéties, on peut dire, bon, mais c'est... Peut-être que Jésus savait qu'il y avait une prophétie qui devait arriver sur un ânon, donc il a été volé un âne. Je veux bien vous accorder que peut-être il a forcé la réalisation de l'accomplissement d'une prophétie. Mais en général, on ne choisit pas où on est. Le petit bout de chou qui va naître chez les Florès, ce n'est pas lui qui a demandé à naître à Lanval ou à Nice. Il naît où, c'est pas où sa maman se trouve. Et sans entrer dans le détail, mais encore une fois, les mathématiques sont quelque chose qui doit nous interpeller. La science dit que la religion dit n'importe quoi, que seule la science, la rationalité de la science, de l'approche scientifique est valable. Mais pourquoi est-ce que le monde, l'univers qui nous entoure devrait respecter des lois mathématiques? Pourquoi est-ce que les chercheurs cherchent? S'il n'y a vraiment aucune logique, aucune rationalité, aucun dessein derrière la création, alors n'importe quoi peut arriver. Qui a mis en place ces lois qu'ils recherchent? Et des lois fantastiques, c'est les lois des probabilités. Et quand on applique aux prophéties l'approche mathématique qui déjà est... Moi, j'ai toujours été fasciné de voir qu'on peut comprendre la forme d'une parabole, d'une bille qu'on jette en l'air, en raisonnant rien qu'avec des symboles mathématiques. Pourquoi est-ce que cette abstraction intellectuelle correspond à la réalité? Si la réalité n'a pas de loi, si la réalité est purement chaotique, purement le résultat de n'importe quoi. Les probabilités, vous les connaissez même si vous n'avez pas fait des maths. S'il y a une pierre blanche et une pierre noire et que vous tirez au hasard une pierre les yeux bandés, vous avez une chance sur deux de trouver la pierre blanche, par exemple. C'est simple à comprendre. Vous comprenez tous ça. S'il y a une population où il y a trois fois plus d'hommes que de femmes, pour trouver une femme, quelle va être la probabilité de trouver une femme dans ce nombre de personnes? Ça va être une chance sur combien? Une chance sur 4. Hein. Il y a 25 femmes et 75 hommes, ça fait 100. Il y a 100 personnes qui sont des femmes. Donc si j'en prends une personne au hasard, ça va être une chance sur 4 que ce soit une femme. Maintenant, si parmi ces personnes, il y a une personne sur deux qui est aveugle, quelles sont les chances que en prenant une personne au hasard, je tombe sur une femme qui soit aveugle? Alors, 50% des gens sont... Donc, ça va être sur les 25, ça va être encore... Une moitié de ces personnes vont peut-être être une femme aveugle. C'est ce qu'on appelle les probabilités composées. Donc, ça va être une chance sur 8 que la personne tirée au hasard soit aveugle. Donc, on le fait inconsciemment. On sait que... Une chance sur deux pour qu'il fasse beau demain. Et quand on applique ces mathématiques, ces statistiques aux prophéties, on arrive à des choses absolument surprenantes. Et il y a un mathématicien qui a, pas très longtemps, en 1969, qui s'est intéressé à faire une analyse statistique des prophéties. Et il a dit, on va prendre une personne au hasard dans l'histoire de l'humanité et on va voir si cette personne aurait pu remplir, par exemple, une de ses prophéties, ou par hasard. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né à Bethléem, personnellement? Oui ou non? À part Jésus, hein. On est d'accord. D'accord, mais il y a des gens qui naissent à Bethléem. On est passé pas loin. On n'a pas pu aller à Bethléem parce que c'est maintenant sous contrôle palestinien et on était avec un guide juif qui n'avait pas le droit d'y aller. Mais il y a des gens qui naissent là-bas et dans l'histoire de l'humanité, il y a des personnes qui sont nées là-bas. Donc que quelqu'un soit né à Bethléem, en soi, c'est pas si remarquable. Ça aurait pu, je sais plus exactement la population estimée à l'époque, mais disons que ce soit qu'il y ait eu 1000 personnes qui habitent cette petite ville, cette petite bourgade à l'époque, sur une population de 2 500 000 personnes. On peut savoir qu'en prenant une personne au hasard à l'époque, elle aurait eu une chance peut-être sur 2000 de venir de Bethléem. Donc peut-être on a pris en prenant ce Jésus par hasard, une personne comme ça, on l'a pris et il se trouve qu'il était né à Bethléem. On a accompli une prophétie. Maintenant qu'il a été trahi par un ami jusqu'au point de mourir, c'est déjà pas fréquent. Mais peut-être que vous avez été déjà trahi par des amis, que vous vous dites une fois sur deux, les gens me laissent tomber, tous mes amis sont des traîtres. Ou une chance sur deux. Bon, ça veut dire que si on prend une personne au hasard, pour qu'il ait rempli ces deux prophéties, maintenant il faut 50 fois plus de personnes. Donc la probabilité pour que cette personne au hasard soit née à Bethléem et ait été trahie par un ami, elle est beaucoup moindre qu'au départ. Et ainsi de suite. Et si on associe à chacune de ces prophéties une probabilité, par exemple le fait qu'on le mette à mort en lui perçant les pieds et les mains, on peut dire, bon ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura cette bizarre idée une fois sur 100. Donc cette probabilité de 1 sur 100 est attachée à cette prophétie d'avoir les mains et les pieds percés. Trahi pour 30 pièces d'argent, pourquoi pas 27 ou 31, mais disons qu'on dise une chance sur 50, on va être très généreux. Et ainsi de suite, et ce mathématicien a dit, je vais prendre juste 8 prophéties sur les 300 qui s'occupent de Jésus, le lieu de sa naissance, la date, on a parlé de la prophétie de Daniel la semaine dernière ou la semaine d'avant, la virginité de sa maman, ça c'est pas commun ça. On a dit que ce serait un vrai signe si la maman était vierge, parce que des enfants qui naissent de mamans qui sont pas vierges, c'est pas un grand signe. La virginité, la trahison, le supplice sur la croix. La croix n'avait pas été inventée à l'époque des prédictions dans le psaume. David ne connaissait pas le supplice de la croix. Et pourtant, la description dans le psaume 22, c'est exactement les symptômes de la crucifixion. Elle a été inventée plus tard par les Perses et reprise par les Romains. Le fait qu'on partage ses vêtements, le fait qu'on l'enterre dans la tombe d'un riche. Il a pris 8 prophéties et il a dit, en fonction des probabilités de chacun de ces événements, pour qu'en prenant une personne au hasard dans l'histoire de l'humanité et qu'elle remplisse ces 8 prophéties, il arrivait à avoir une chance sur 10 suivie de 17 zéros. 10 suivie de 17 zéros, ça revient... Est-ce que vous savez combien il y a de secondes dans un an ? Pas difficile à calculer. Il y a combien de jours dans un an ? 365. On va laisser tomber les années bissextiles. Chaque jour compte combien de secondes ? 24 heures, de combien de secondes ? De 3600 secondes. Et on arrive à dire qu'en un an, il y a 32 millions de secondes. On peut dire la prochaine fois, l'an prochain, au lieu de souhaiter la bonne année aux gens, souhaitez-leur 32 millions de secondes de bonheur. C'est des mathématiques toutes bêtes. L'âge de l'univers, on dit qu'il est de 16 milliards d'années. La science officielle. Un milliard, c'est 1000 millions. C'est 1000 fois 1000 fois 1000, c'est 10 à la puissance 9. Les puissances, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de puissance. 10, c'est 10 puissance 1. 100, c'est 10 puissance 2 parce que c'est 10 multiplié par 10. 1000, c'est 10 par 10 par 10. 3 fois, c'est 10 puissance 3. Et ainsi de suite. 1 million, c'est 10 à la puissance 6. S'il y a 32 millions de secondes, ça fait 32 10 puissance 6. L'âge de l'univers, d'après les scientifiques non créationnistes qui croient que... Ils pensent qu'il a 16 milliards d'années, 16 à 10 puissance 9. En secondes, l'âge de l'univers, d'après ces scientifiques, c'est 5 fois 10 à la puissance 17. Donc, pour qu'on prenne quelqu'un au hasard et que cette personne accomplisse seulement 8 des prophéties qui concernent Jésus... 1 sur 10 à la puissance 17, ça revient à prendre une seconde dans l'histoire de l'univers, d'après les scientifiques qui non évolutionnistes, non créationnistes. Depuis le début de la création du monde jusqu'à maintenant, et c'est pas des 6000 ans, hein, c'est des milliards d'années. Il faut tomber sur la bonne seconde. Et ça, c'est juste pour... Une chance pour 10 à la puissance 17. Si on, le même mathématicien a dit, mais on ne va pas s'arrêter là, on va prendre au lieu de prendre seulement 8 prophéties, on va en prendre le double, il en a pris 17. Et là, il est arrivé à une chance sur 10 à la puissance 32. Donc c'est 1 sur 10 suivi de 32 zéros pour qu'au hasard on prenne quelqu'un qui accomplisse ses prophéties, qu'il soit trahi, qu'il soit etc. Et là il a dit une autre façon de voir la prophétie de pour 17 pour 8 des prophéties, 1 sur 10 à la puissance 17, pardon, j'espère pas vous perdre, c'est de dire que si on recouvrait la France entière de pièces de 2 euros sur une hauteur de 50 cm et qu'on fasse une croix sur une des pièces, mais une croix rouge sur une des pièces qu'on jette, on mélange le tout et quelqu'un arrive avec en hélicoptère, les yeux bandés, il vient d'un autre pays, il se pose sur la terre française qui est maintenant recouverte d'argent, sans personne, il prend une pièce au hasard. La chance qu'il ait de tomber sur la pièce qui a eu la petite croix rouge, c'est la même que celle de prendre quelqu'un au hasard qui remplirait les 8 prophéties. Pour, si on double les prophéties, ou un peu plus, avec 17 prophéties, il arrivait à 10 à la puissance 32. Et là, le réceptacle où il faudrait avoir toutes les pièces de monnaie pour qu'en prenant une au hasard, on ait la même équivalent. Maintenant, il faut, on peut imaginer une boule faite de pièces de 2 euros, mais le rayon de la boule, ce serait 30 fois la distance de la Terre au Soleil. 30 fois la distance de la Terre au Soleil. Et là, on aurait assez de pièces de monnaie, 10 à la puissance 32, pour qu'on, en arrivant avec une fusée, on se pose, on creuse, on en prend une. Ça devient ridicule. En physique, lorsqu'une chose a 1 sur 10 à la puissance 50, une chance seulement sur 10 à la puissance 50, on dit que cette chose n'existe pas, elle est impossible. Si on prend 48 prophéties, le même mathématicien a vu qu'on arrivait à une probabilité de 1 sur 10 à la puissance 156. Tout ça pour dire, c'est, vous ne perdez pas, mais ayez la foi que les prophéties authentifient absolument, de façon absolument incontournable, imparable, le fait qu'il n'y a pas de hasard. Jésus est bien qui il a dit être. Il n'a pas pu... Les prophéties sont la façon dont Dieu nous assure que sa parole est la vérité. Et souvent, les prophéties, on pense, oh, c'est intéressant, mais on n'est pas conscient de leur force dans l'argumentation. Alors, Vous pouvez, je peux vous donner les notes, vous pouvez mais ayez ces affirmations dans votre cerveau, dans votre cœur aussi. Parce que moi, lorsque je réalise que les chances que quelqu'un au hasard ait rempli ses prophéties, et que je sais qu'il, pour moi, il y a plus de doute possible, absolument aucun doute possible. Et quand on pense qu'il n'y en a pas eu seulement 8, il n'y en a pas seulement 17, ou il n'y en a pas seulement 48, il y en a 300. On arrive à des prophéties absolument impossibles. Alors ça, c'est... Si vous êtes un peu branché sur les maths, ou si vous avez des amis qui sont branchés sur les maths, vous pouvez les attirer sur le terrain, et là, ils n'ont aucune chance. Toujours avec douceur et crainte. Pas les insulter. Ils vont s'insulter tout seuls lorsqu'ils vont réaliser que ils vont vouloir connaître la Bible lorsque vous leur expliquez toutes ces choses-là. Le fait que les prophéties, ce n'est pas des prophéties fabriquées après coup. Ce n'est pas comme chaque année, il y a les prophéties ou les prédictions des astrologues dans les magazines français où on dit qu'il va y avoir une crise économique ou qu'un politicien va être pris dans la corruption sans qu'on dise qui ça va être, quel montant ça va être, dans quelles circonstances. Les prophéties, c'est la signature de Dieu. Jésus quand on fait notre sondage, on demande aux gens ce qu'ils pensent était Jésus. Est-ce qu'il était un grand homme, une légende, un personnage historique, un fou, un grand homme? Et en fait, suivant la réponse, on sait à qui on a affaire, mais Jésus a dit avoir existé longtemps avant sa naissance terrestre. Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il a dit être le seul chemin pour aller à Dieu. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit que Dieu était son Père. C'est de Dieu que je suis sorti. Jean 8, 42. Il a même dit être l'égal du Père. Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 9. Il a parlé d'être uni dans l'unité avec Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Jean 10, 30. Il a parlé de son identité avec Dieu. « Le Père est en moi et je suis dans le Père. » Jean 10, 38. Et par ces affirmations, Jésus a dit être plus qu'un grand homme. Il a dit en fait « Je suis Dieu ». Bouddha n'a jamais prétendu être Dieu. Moïse n'a pas dit qu'il était Jéhovah. Mahomet n'a pas dit qu'il était Allah. Mais Jésus a dit qu'il était Dieu. Et ça, là aussi, c'est une façon de parler aux gens, de présenter la vérité du christianisme, c'est de leur dire que Jésus a dit « Je suis Dieu ». Qu'est-ce que vous faites de cette affirmation? Alors certains vont dire « Il n'a jamais dit ça ». En fait, c'est pour ça exactement, toutes ces phrases qu'il a prononcées, c'est la raison pour laquelle les Juifs ont voulu le tuer et l'ont tué ou l'ont conduit à la croix. On sait que c'est mes péchés qui ont fait qu'il est mort sur la croix. Mais devant l'idée qu'il est Dieu, soit c'est faux, soit c'est vrai. Il n'y a pas... C'est de la logique pure et simple. Si c'est faux, admettons que ce soit faux. Il y a trois possibilités, en gros. La première, c'est qu'en fait, Jésus, c'est une des options qu'on dit, c'était une légende. Il n'a jamais réellement existé. Mais personne de sérieux ne conteste le fait qu'il ait vécu de façon historique, réelle. Il y a des références à son sujet dans des auteurs de l'Antiquité comme Tacite, Pline, Joseph ou Suétone, des historiens de l'époque ou après son temps, mais qui ont parlé de lui comme d'un véritable personnage historique, comme aujourd'hui on parle du président Obama. C'est pas une légende, il y a un gars qui est maintenant à la Maison Blanche qui s'appelle Obama. On peut penser peut-être que ce sont ses disciples qui ont idéalisé et qui ont exagéré la vérité. Peut-être c'était un type bien, mais ils ont poussé le bouchon un peu loin. Mais le premier récit de sa vie a été écrit entre l'an 50 et 60, c'est-à-dire moins de 20 ans après la mort de Christ. Donc ça veut dire 20 ans, c'est pas, ça, peut-être vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas encore 20 ans, vous venez juste d'avoir 20 ans. 20 ans, ça vous paraît comme une éternité. Mais 20 ans, ça passe très vite. Pour nous qui sommes plus âgés, on peut vous le dire. Et en 20 ans, il y avait encore des gens qui restaient des témoins oculaires, des gens qui avaient vu les événements. Et ils auraient pu facilement dire, non, c'est pas vrai, on était là, il a jamais guéri personne, il a jamais dit ces choses-là. Personne ne l'a fait. Au contraire, des tas de gens ont mis leur foi en lui. Donc l'option qu'il était une légende, on peut la rejeter. Peut-être que c'était, si l'affirmation « Je suis Dieu » prononcée par Jésus ou déclarée par Jésus par ses autres déclarations, si c'est faux, c'est une autre possibilité, c'est que Jésus était un menteur. En général, lorsque l'on ment, c'est pour retirer un profit. Quand mentir n'est plus avantageux, si on est menacé de mort, par exemple, on dit « mais c'est pas vrai, je retire ce que j'ai dit ». Par contre, Jésus n'a jamais retiré ses affirmations, il est allé jusqu'à la mort. Les hommes mentent pour défendre leurs intérêts propres. « Non, non, j'ai pas touché tant d'argent, je paye moins d'impôts ainsi, etc. » Mais toutes les descriptions de la vie de Christ parlent de son caractère d'intérêt pour les autres, son altruisme. Sa vie, ça a été une vie de sacrifice total. Il a dit dans Jean 10, 15, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Si ça avait été un menteur, un imposteur, il aurait été en fait un être mauvais, ignoble, parce que en promettant le pardon, la vie éternelle à tous ceux qui croirait en lui, ça aurait été une supercherie terrible. Mais des millions d'hommes au cours des siècles, des millions de femmes ont mis leur foi en lui, ont pu témoigner d'une vie complètement transformée. Quand on demandait à trouver un seul péché en lui, personne n'a pu le faire. Jean 8, 46. Personne n'a pu le faire depuis 2000 ans. On peut être contre la religion, on peut être contre la foi chrétienne, contre les croisades, mais personne ne peut reprocher à Jésus ce qu'il a fait pendant sa vie. Jésus-Christ n'était pas un menteur. On peut éliminer cette option. La troisième option, si c'est faux, c'est que Jésus était un fou. Peut-être qu'il était un peu dérangé, comme il y a des gens aujourd'hui qui mettent la main dans leur veste en disant « Je suis Napoléon ». On vous enferme dans un asile. Mais le comportement, la vie de Jésus n'a jamais été celui d'un malade mental. Vous vous souvenez, lorsque les chefs religieux avaient envoyé des gardes pour l'arrêter, dans Jean 7, 46, ils reviennent en disant qu'ils n'ont pas pu l'arrêter parce que jamais aucun homme n'a parlé comme parle cet homme. Sa sagesse a fait taire les théologiens, les chefs politiques, les chefs religieux de son temps. Aujourd'hui, on cite encore ses paroles, même parmi les non-croyants. Pendant qu'on le mettait à mort, on l'insultait. Lui, il est dit qu'il n'a pas proféré d'insultes. Il n'a pas fait de menaces malgré sa souffrance. Au contraire, il a demandé à ses tortionnaires, à ces gens qui le mettaient à mort, qui lui plantaient les clous dans les mains, dans les pieds, Il a demandé à Dieu, Luc 23, 34, de les pardonner parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Un fou n'a jamais prié pour ses meurtriers. Un fou ne peut pas prédire l'avenir comme Jésus l'a fait. Vous vous souvenez qu'il a prédit la chute de Jérusalem qui est arrivée 38 ans plus tard, en l'an 70. Jésus-Christ, on ne peut pas envisager l'option qu'il était fou. Il n'était pas fou, il n'était pas menteur, ce n'était pas une légende. Ça veut dire que l'affirmation qu'il a prononcée en disant « Je suis Dieu », la seule conclusion logique, dérangeante peut-être, c'est que Dieu a dit vrai lorsqu'il a dit qu'il n'était pas, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Et ça, vous pouvez partager ça avec n'importe qui vous dit « Oh, la foi chrétienne, c'est du baratin, les papes, ils couchent avec les religieuses. » Vous pouvez imaginer tout ce qu'on vous raconte, mais revenez au centre, à Jésus. Et faites ces simples raisonnements. Et ça peut bouleverser, ça peut remettre en question. Et je crois que, encore une fois, c'est pas le tout de vivre une bonne vie. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont moraux. Il y a des gens qui aiment faire du bien autour d'eux parce qu'ils ont cette étincelle, ils sont créés à l'image de Dieu, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas les bonnes actions qui nous sauvent, c'est le salut en Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et c'est vrai que l'idée qu'on est tous des pécheurs qui avons besoin de la mort du Fils de Dieu pour pouvoir vivre éternellement, ce n'est pas quelque chose de facile à accepter. Nancy serait la première à vous dire qu'elle ne se considérait pas comme une pécheuse. Moi, je le savais, mais j'étais vraiment plus mauvais qu'elle. Mais elle venait d'une bonne famille, catholique en plus. Ils allaient à l'église. Ils faisaient du bien autour d'eux. Elle n'avait jamais tué personne. Elle n'avait jamais volé de banque. Et tous, on est dans cette même situation. Le fait de dire qu'en fait, j'ai en moi cette vieille nature qui fait que je peux faire des choses terribles, que peut-être donner les circonstances adéquates, je ferai des choses encore pires que ce que j'ai pu faire dans le passé. Ça, c'est reconnaître qu'on est un pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Finalement, pour parler de l'unité aussi de la Bible, de montrer quand l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a ce concept de ce qu'on appelle le fil messianique, ou le fil écarlate de la rédemption, le fil rouge de la rédemption. Ça, c'est en référence à Josué 2,18, lorsque Josué, ou plutôt les espions, ont dit à la prostituée Rahab qu'ils allaient envahir sa ville, mais qu'elle aurait la vie sauve si elle avait un fil rouge à la fenêtre. On peut regarder Josué 2,18. Page 223 dans la Bible de la Colombe. Donc les deux espions ont été aidés par cette Josué et Caleb. En fait, c'est pas Josué et Caleb, là, c'est Josué maintenant qui est responsable. Josué et Caleb, c'est les deux parmi les 12 qui avaient été envoyés en terre promise, qui étaient revenus. Josué envoie deux espions, chapitre 2, et il voit la ville de Jéricho, et ils lui disent que, au verset donc 18, elle leur a rendu un service, ils veulent lui rendre un service. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate, rouge, vif, à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe-toi auprès de toi dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Autrement dit, on ne va pas faire de mal à ta famille parce qu'on verra ce fil rouge. Et ce fil rouge, il court, d'une façon de parler, tout au long de la Bible. La Bible parle d'une notion fondamentale, c'est le rachat, ou le mot théologique, c'est le mot de rédemption. Dieu nous a créés une première fois, et nous sommes éloignés de lui, maintenant il vient nous racheter. Et une idée de libération, et aussi une idée du prix qui est payé pour cette rançon, pour cette libération, pardon. Et le fil rouge du rachat, le fil rouge messianique, il commence dès le début de la Bible, dans la Genèse, lorsque, après avoir désobéi à Dieu, l'homme et la femme réalisent qu'ils sont nus et qu'ils sont dans la honte. Et pour couvrir leur nudité, ils vont être obligés, ils se couvrent d'abord avec des feuilles de figuier, je crois. Et on dit qu'en fait, c'est un arbre, les feuilles ne sont pas confortables, elles piquent. Et Dieu va les habiller avec des vêtements de peau. Ça veut dire qu'il y a déjà eu du sang qui a coulé. Du sang rouge écarlate. Premier sacrifice. Ce fil rouge, il continue lorsque, dans la Genèse 3,15, Dieu dit à Satan, le serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Caïn va tuer son frère Abel, le sang va couler, mais la semence promise à la femme doit être préservée et il va y avoir un autre enfant qui va naître à Adam et Ève, qui va être, lui, un homme de foi. Après ça, il va y avoir des corruptions sur la terre. On pense que peut-être il y a eu des mariages entre des femmes, d'hommes et des êtres extraterrestres, des anges, des créatures hybrides, des géants. Dieu décide de détruire la race humaine. Mais il préserve la semence de la femme, la descendance de la femme, en préservant Noé et ses trois fils et leurs épouses. Ils ont reçu pour mandat de peupler toute la terre, mais les descendants vont se concentrer à Babel. Dieu va devoir faire parler les hommes en des langues différentes pour les forcer à se disperser à la surface de la terre. Abraham va arriver à une époque où c'est l'idolâtrie qui règne. Il va obéir à Dieu. Dieu va lui demander de partir et va lui promettre une descendance qui bénira toute la terre. Il y a un premier fils d'Abraham avec une esclave, Agar. Ce n'est pas le fils de la promesse, de la semence promise, de la descendance de la femme. Mais après lui, Ismaël, arrive Isaac, le fils de la promesse. Il a deux fils, Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob et le renomme Israël, prince de Dieu. La famine en Canaan force la famille à partir pour l'Égypte, où le fils qu'on croyait mort est devenu premier ministre, Joseph. La famille s'installe et prospère, jusqu'à un pharaon qui les prend en esclave, le pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Dieu suscite un prophète, Moïse, pour délivrer son peuple et instituer la Pâque. Et la Pâque, c'est un peu comme le fil rouge pour la famille de la prostituée, de Rahab. Parce qu'il est dit dans Exode 12-13 que le sang qu'ils allaient mettre sur les portes après avoir sacrifié l'agneau Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang servait de signe parce que c'était en fait le signe que le sang avait déjà coulé. Il y avait un agneau innocent qui avait déjà pris le sang. Toujours ce fil du rachat, le fil rouge, le filet de sang. Ce thème, il est présent dans toute la Bible, jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, où il est même question de celui dont qui se gorge du sang de Bosra. Qui foule le sang parlant de Jésus. Alors, c'est où ça? Chapitre 19, verset 11. La venue du Christ. Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu sur sa tête. Se trouvent plusieurs diadèmes, il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le sang, c'est le symbole de la vie, et ce fil messianique, ce messie, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de rédemption, il est dit dans Hébreux 9, sans versement de sang. Et ça nous permet de voir l'unité de l'Ancien Testament, l'institution de tous les sacrifices qui préfigure le seul sacrifice qui allait être valable. Ça aussi, c'est un argument pour la solidité du récit de toute la Bible. Il y a une harmonie entre l'Ancien et le Nouveau. J'ai déjà partagé en... Vous savez ce que c'est qu'une concordance? C'est une espèce de dictionnaire qui prend tous les mots utilisés dans la Bible et liste pour chaque entrée, pour chaque mot, les endroits où il est utilisé. En russe, le mot qui se traduit par concordance en français, c'est le mot symphonia, une symphonie. C'est comme tout est orchestré, et là on n'a pas encore parlé d'autres signes comme les mots qu'on peut former avec des répétitions à équidistance qu'on trouve dans certains passages avec des multiples de 7 et de 70, etc. Mais encore une fois, en tant que chrétien, on doit avoir une assurance béton, platine, indéfaillible, indéfectible dans la Bible. Et si on a cette assurance, ça transforme notre vie, ça... Après ça, notre vie va parler. Mais il y a toujours besoin de parler, de dire avec douceur et crainte la raison de l'espérance qui est en nous. Zacharie annonce que le monde entier va entrer en conflit au sujet de Jérusalem. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations, pour tous les peuples d'alentour. Zacharie 12, 2. Et Jérusalem, ça peut paraître ridicule parce qu'il n'y a pas de pétrole à Jérusalem. Il y a un peu d'or sur le dôme de la mosquée qui a été bâti sur le... Peut-être un mot prophétique. Bâti sur le temple, sur la montagne du temple, l'esplanade du temple, qu'on appelle en France l'esplanade des mosquées, en prenant parti. Jérusalem est en train de former un gouvernement en ce moment. Ils n'arrivent pas, il n'y a pas la paix, ils n'arrivent pas à avoir la paix, ils ne savent pas comment ils vont réagir. Jérusalem reste une coupe d'étourdissement. On est en plein dans le calendrier prophétique, on est en plein dans ce que la Bible nous raconte. Et Mon encouragement, c'est vraiment de croire de toute votre aide, de tout votre cœur, tout ce qui est dit dans la parole. C'est pas facultatif, c'est pas, il y a bien sûr différents types de langage, encore une fois il y a du langage poétique, du langage historique, du langage figuratif, mais si le monde savait ce qu'on vient de, encore une fois, de dire, combien de personnes s'ouvriraient? Et trop souvent on est surpris lorsqu'on parle aux gens, lorsqu'on leur explique, ils savent bien que leur vie n'est pas satisfaisante, qu'il y a un grand vide. Ils savent bien que la richesse en notre période de crise, on ne sait même pas si en faisant des études, en étant le meilleur de sa promotion, on va avoir un vrai bon boulot, on n'en sait rien. Les gens sont en recherche et nous, on sait tout ça déjà. Ou peut-être on apprend à découvrir ces choses. Dieu veut qu'on les partage. Et je crois que si on en est convaincu, on va le dire autour de nous. Encore une fois, quand on est au courant d'une bonne affaire, Daniel m'a appelé l'autre jour, il m'a dit « Hey, est-ce que tu es au courant? Aer Lingus, tu peux aller de Nice à Londres pour 9,99 €. Ça, c'est une bonne nouvelle. » Il m'a appelé. Est-ce que je suis prêt à dire quand l'occasion se présente? On ne veut pas être « Tout genou fléchira !» C'est vrai, mais avec douceur et crainte, parce que c'est une grande responsabilité.